Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ah oui, tiens. Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. La saison dernière, j'avais réalisé un épisode sur Alien, et vous m'aviez demandé de faire la même chose sur le Predator. Eh bien, voilà chose faite. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un réalisateur français qui s'est frotté à la SF, avec à la clé des fortunes diverses. Aujourd'hui, je vais vous parler de Luc Besson. Luc Besson est né le 18 mars 1959 à Paris. Alors qu'il était destiné à une carrière de plongeur professionnel, un accident de plongée met fin à ses espoirs. Dans ce domaine en tout cas. Le cinéma, c'est un peu par hasard qu'il le découvre. Alors jeune homme touche à tout et débordant d'énergie, un membre de sa famille lui permet de se rendre sur le plateau de tournage d'un court-métrage. Pour Luc, c'est une évidence. Son avenir se trouve dans le cinéma. Il veut alors tout connaître de cet univers, de manière théorique, mais aussi sur le tas, en écumant les tournages en tant que technicien et en tâchant de se rendre indispensable. La réalisation, il va s'y frotter en 1981, avec L'Avant-Dernier. C'est un court-métrage post-apocalyptique, un brin conceptuel et difficile d'approche. Une image en noir et blanc saturée et une bande son. Je vous mets un extrait pour que vous vous fassiez une idée. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. L'histoire, deux hommes s'affrontent dans un décor de fin du monde. Rien de vraiment révolutionnaire, mais ça donne un avant-goût du long métrage qui va suivre. Le Dernier Combat sort en 1983 et reçoit plusieurs distinctions, dont le prix spécial du jury et le prix du public lors du festival d'Avoriaz. Nous sommes plongés dans un futur post-apocalyptique, la sécheresse a gagné la partie et le monde ressemble à un désert où subsistent quelques vestiges de notre civilisation. La situation paraît à ce point chamboulée qu'il pleut tour à tour des poissons et des pierres. Quelques hommes y survivent en récupérant de ci, de là, des objets divers et s'abritent dans des carcasses de voitures. Une autre séquelle du cataclysme qui s'est déroulé, les hommes ne peuvent plus parler. Ce qui ramène encore un peu plus le genre humain à un rang que l'on pourrait qualifier de bestial, un paysage où la loi du plus fort l'emporte. Le héros, lui, a élu domicile dans ce qui ressemble à d'anciens bureaux et au début du film, il se fabrique un ULM. ULM qui lui permettra d'atteindre les ruines d'une ville, où il rencontrera, pour commencer, un fou furieux en armure qui va essayer de le tuer, et ensuite un médecin, ou du moins un homme qui agit comme tel. Ce dernier s'est constitué une place forte, où il retient ou protège, ça dépend des points de vue, une femme. Femmes qui ont, semble-t-il, disparu de la surface de la planète. Bref, une vraie bonne dystopie. Ce film révèle Luc au grand public et lui permet de réaliser une série de films qui feront de lui un élément important du cinéma français. Subway, Le Grand Bleu, Nikita, Léon. Sa réputation dépasse maintenant les limites de la France et il se lance dans la production d'un film qu'il a imaginé alors qu'il n'était qu'adolescent. Et ce film, bien qu'avec des ambitions internationales, sera français. Et ce, même si le casting est majoritairement anglo-saxon. Ce film, vous l'aurez deviné, c'est Le Cinquième Élément. « Pour le réaliser, il fera appel à une brochette de talents hexagonaux de haute volée. Jean Giraud et Jean-Claude Mézières définissent l'univers du film, qui semble être beaucoup inspiré de la BD Valérian. Logique, Mézières avec Pierre Christin en est le créateur. Les costumes sont de Jean-Paul Gaultier. La musique est confiée au compositeur Éric Serra, compagnon filmique des premières heures de Besson. Le tournage a lieu dans les studios de Pinewood au Royaume-Uni. L'histoire du cinquième élément, elle commence en 1914. Un archéologue découvre un étrange temple en Égypte. Et pour cause, il s'agit d'un coffre-fort à l'usage d'extraterrestres. Et justement, les voilà qui arrivent. Ils viennent récupérer des éléments précieux, à savoir quatre pierres et un mystérieux cinquième élément, qui ne doivent en aucun cas tomber en de mauvaises mains. Une petite ellipse, et nous voilà en 2263. À la faveur d'une éclipse, un astre inconnu est apparu près du système solaire. Et les vaisseaux militaires envoyés à sa rencontre ne peuvent que constater leur impuissance à détruire l'objet en question. Mais pourquoi le détruire, me direz-vous ? La déclaration du militaire chargé de l'opération est claire.
Qu'est-ce que vous préconisez ?
Ma philosophie, monsieur le président, est de tirer d'abord et de poser des questions ensuite. Je n'aime pas les surprises.
Stellert.
Monsieur le président.
J'ai un doute.
Moi pas, monsieur le président.
Non seulement ils ne peuvent détruire l'astre, mais celui-ci semble se nourrir des missiles qui lui sont envoyés. Et en plus, il se dirige vers la Terre. Le mal génère le mal, dira le prêtre Vito Cornelius, qui explique que l'astre est tout simplement le mal, en majuscule, en personne. Et que la seule façon de lutter contre celui-ci est de réunir les fameux cinq éléments. Vous vous souvenez de ceux qui ont été emportés en 1914 ? Et justement, revoilà les extraterrestres en question, les Mondo Chawan, qui reviennent avec les 10 éléments. Mais, pas de bol, leur vaisseau est attaqué et détruit par des vaisseaux inconnus. Dans les décombres de leur vaisseau, on ne retrouve qu'un fragment du cinquième élément, une main. Mais voyez-vous, la médecine a fait d'énormes progrès. Et en 2263, on peut reconstituer un corps entier juste à partir d'une main. Une fois la reconstruction finie, on découvre que le cinquième élément est une jeune femme. Après tout, pourquoi pas ? La jeune femme qui est terrorisée de se retrouver là. Petit aparté, comment l'esprit du cinquième élément peut être reconstitué à partir de sa seule main ? On ne le retrouve pas dans l'ADN. Il me semble en tout cas. Bref. Notre jeune femme se ressaisit et parvient à s'échapper. Et tombe littéralement sur le héros, Corben Dallas, conducteur de taxi volant. Corben, d'abord surpris, on peut le comprendre, se voit ordonné par la police de livrer la jeune femme. Elle le supplie de ne pas laisser les policiers l'embarquer. Et voilà notre héros qui se lance dans une course-poursuite pour échapper aux forces de l'ordre. Course-poursuite sponsorisée par McDonald's, soit dit en passant. Une fois débarrassés de leur poursuivant, la jeune femme et Corben se rendent chez Vito. Vous savez, le prêtre qui a annoncé la fin du monde. Et Vito se rend vite compte que la jeune femme, Lilou, est le cinquième élément. Sauf que, pour contrer l'attaque du mal qui se dirige vers la Terre, il faut aussi les quatre pierres. Lilou, Corben, Vito et l'assistant de ce dernier vont alors entamer une chasse au trésor pour les retrouver. Mais le mal n'est pas seul. Il sous-traite avec un homme d'affaires terrien.
Jean-Baptiste, Emmanuel, Zor.
Et ce dernier va faire feu de tout bois pour être le premier à récupérer les pierres. Vous vous souvenez de l'attaque du vaisseau qui ramenait les pierres et le cinquième élément ? Eh bien, c'est lui qui l'a commandité. Mais cette tentative est un échec. Les pierres ne sont pas dans l'épave du vaisseau attaqué. Elles sont avec la diva Plava Laguna à bord d'un vaisseau de croisière, le Flushton Paradise. Et donc tout le monde décide de s'y rendre avec plus ou moins de facilité. Corben va, comme par hasard, gagner 2 places lors d'un jeu concours pour s'y rendre en première classe. Car Corben est un ancien militaire et on lui demande de rempiler pour retrouver les pierres. Comme ça, il pourra accomplir sa mission incognito. En tant que gagnant de concours, incognito, vraiment. Et pourquoi pas? On dit que pour mieux dissimuler quelque chose, il faut le mettre en pleine lumière. Bonne idée a priori, sauf que... En plus de Lilou qui se fait passer pour son épouse, il est affublé d'un animateur radio complètement barré. Ruby Rhodes. Et oui, il a gagné un concours et il a le droit à son quart d'heure de célébrité. Bonne nouvelle, en 2263, le média radio existe toujours. Mais bon, c'est pas forcément le meilleur exemple auquel on a droit. Toute la joyeuse troupe arrive enfin à destination, la diva est localisée, un plan qui se présente très bien. Ou pas. Alors que la diva donne un récital, elle est abattue par les mêmes terroristes qui ont attaqué le vaisseau Mondo Shawan. Corben met à profit son passé militaire pour les mettre en échec au terme d'un affrontement dantesque. Pour la petite histoire, le décor de Fluston Paradise doit être le cadre du paroxysme de l'affrontement, qui se termine par une énorme explosion. Eh bien, la dite explosion va tout simplement mettre le feu au décor, qui sera en partie détruit, ce qui n'était pas vraiment prévu, mais qui fera beaucoup rire Luc Besson, comme on peut le voir dans un making-of. Comme quoi, on a affaire à un grand enfant. Vous connaissez la différence entre un enfant et un adulte? La taille des jouets. Une fois les 5 éléments récupérés, ils sont réunis sur le site que l'on a découvert au début du film. Ils entrent en communion et émettent un rayon qui arrête le mal juste avant qu'il n'impacte la Terre. Le film aura un énorme succès public en France avec plus de 7 millions d'entrées. La critique, quant à elle, sera beaucoup, mais alors beaucoup moins enthousiaste. L'œuvre se fera démonter pour son manque de profondeur. C'est d'ailleurs un procès récurrent qui sera fait à Luc Besson. Privilégier la forme au fond. On va constamment lui reprocher une quasi-absence, voire une absence totale de scénario, qu'il tenterait de pallier avec une esthétique digne d'un clip musical. Mais est-il nécessaire d'avoir un scénario complexe pour réaliser un bon film? Je ne crois pas. Et inversement. Mais qu'un réalisateur déjà dans le viseur de la critique depuis le Grand Bleu ose se frotter à la science-fiction, au pays du réalisme littéraire et du cinéma d'auteur, ça passe d'autant moins. La fameuse « intelligentsia parisienne », entre guillemets, ne va certainement pas louper pour cet affront fait à la création cinématographique française. C'est un peu comme s'il crachait sur la nouvelle vague. Certes, le scénario n'est pas le plus étoffé et le film regorge de bons sentiments. Et alors, en quoi c'est gênant? D'autant plus qu'il n'est pas utopique. Il dépeint une société socialement brutale, polluée, xénophobe envers les extraterrestres. Le flicage semble quasi permanent et expéditif. Le terme « violence policière » est un doux euphémisme. Le traitement des personnages est un poil manichéen, on est d'accord. Les gentils sont gentils, les méchants carrément idiots. Ce film n'est pas parfait, mais son univers est fascinant. Les décors urbains donnent le vertige. Les vaisseaux sont élégants, les aliens magnifiquement dessinés. Et je dois dire que j'ai un faible pour certaines astuces de montage, comme quand les personnages se répondent dans 2 dialogues décalés.
Et de votre côté, mon cher Aknot, est-ce que vous m'apportez ce que j'ai demandé?
Oui.
Magnifique. Aknot. Cette valise est vide.
Mais comment ça, vide?
Vide. Le contraire de plein, si vous préférez. Cette valise devrait être pleine! Quelqu'un a-t-il une explication?
Pour ses films suivants, il se dirige vers le drame historique, Jeanne d'Arc, et des films plus orientés fantastiques. Angel A, Arthur et les Minimoys, Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. En 2014, sort son 16e long-métrage, Lucie. L'histoire se base sur une hypothèse, on ne se servirait que de 10% de notre cerveau. Hypothèse battue en brèche, mais qui ouvre de belles perspectives sur ce qui viendrait si on pouvait utiliser 100%. Ce qui va se passer dans le film. Lucie est une jeune femme qui vit à Taïwan. Elle se retrouve à son corps défendant à faire la mule pour les trafiquants de drogue. Le produit dont on lui a inséré des sachets dans le ventre est une drogue expérimentale. Au cours d'une bagarre, un des sachets est crevé et Lucie subit une surdose de ce produit. Va alors commencer une vertigineuse augmentation de ses capacités physiques et psychiques. Tout y passe. Vision rayon X, télépathie, télékinésie, capacité de métamorphose. Mais ces « pouvoirs » entre guillemets ont un prix. Celui d'une dégradation physique rapide. La réflexion de ce film est plutôt une question. Notre cerveau est-il sous-utilisé? Et si oui, comment peut-on s'en servir d'une manière plus poussée? Le postulat n'est pas bon au départ. Oui, on n'utilise qu'une partie de notre cerveau, mais seulement à l'instant T. Ça dépend de ce qu'on fait. Que l'on joue de la musique, qu'on lise un livre, qu'on soit en train de fabriquer un objet, ou qu'on soit en train d'écrire une émission de radio. Ce sont des parties différentes du cerveau qui entrent en jeu. Alors, quand elle est mobilisée intégralement, ça paraît un poil difficile à imaginer. Et c'est peut-être là tout le nœud du problème. Nous n'avons jamais été dans ce cas, donc on ne peut pas connaître les tenants, les aboutissants. Ça ressemble à un cercle vicieux. On ne sait pas l'imaginer car il faudrait le concrétiser pour pouvoir l'imaginer. Vous voyez un peu la complexité de la chose. Et comme l'héroïne, ressortirons-nous indemnes d'une telle évolution? Notre esprit serait-il capable d'encaisser un tel déferlement d'informations, de perceptions? Serions-nous comme dévorés de l'intérieur par ce pouvoir qui nous donnerait tant à admirer qu'autant à assimiler? Un tel déluge d'informations serait-il anodin, bénéfique ou alors totalement dévastateur? Ou est-ce juste un petit aperçu de ce que pourrait devenir l'être humain dans un futur lointain? Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Le film recevra le même traitement que le cinquième élément. Succès public et accueil plutôt froid de la critique. En 2015, Luc Besson annonce la production de ce prochain film. Il sera inspiré de l'univers de la bande dessinée Valérian et Laureline. Pour les deux du fond qui ne connaissent pas, Valérian et Laureline est une bande dessinée apparue pour la première fois en 1967 dans les pages du magazine Pilote. Mais je vous en parlerai un jour. Toujours est-il que Luc va réaliser un film librement inspiré de la BD. Et ce sera une réalisation ambitieuse. 197 millions d'euros. Loin, très loin des autres productions hexagonales. Il veut clairement rééditer ce qu'il a fait pour le cinquième élément. L'équipe sera toutefois différente. Exit Jean-Paul Gaultier et Eric Serra, place à Olivier Berriot pour les costumes et Alexandre Desplat pour la musique. Autant Berriot n'est pas forcément très connu par le grand public, autant Desplat bénéficie d'une reconnaissance certaine. Il a reçu, entre autres, 3 Césars et 2 Oscars. Ça pose son bonhomme. Ce film, c'est Valérian et la cité des 1000 planètes. 3, 2, 1, exit. Your stare makes me freeze, but I can't stay still. Those eyes keep me up longer than any other pill. And I know being together, we feel like forever. L'histoire, elle commence en 1975 avec la rencontre des astronautes russes et américains des missions Apollo et Soyouz. S'ensuit la création de la Station Spatiale Internationale qui verra débarquer les premiers extraterrestres, eux-mêmes suivis par de nombreux autres au fil des ans et des siècles. Au bout d'un moment, la taille de cet agglomérat de vaisseaux d'origine et de formes disparates forme un ensemble trop gros pour rester en orbite autour de la Terre. C'est ainsi qu'Alpha, c'est son nouveau nom, est envoyé voguer dans l'espace, À ce moment, la station abrite près de 17 millions de formes de vie. Petite ellipse, et nous voilà en 2740. Nous retrouvons le héros, Valérian, accompagné de Laureline, sa collègue. Ce sont des agents spatio-temporels, des policiers galactiques en quelque sorte. Ils sont envoyés en mission dans un marché clandestin pour récupérer un réplicateur. Un réplicateur, c'est un petit animal, il tient dans la main et il est mignon tout plein. Il ressemble un peu à un tatou. Son nom donne un indice sur sa particularité. Il peut répliquer tout ce qu'il avale. Bien évidemment, son don en fait sa valeur et il attire la convoitise de nombreuses personnes et pas forcément les plus recommandables. C'est pour ça que Valérian est chargé de le récupérer. Une fois de retour sur Alpha, c'est Laureline qui va veiller sur le réplicateur. Mais il y a encore du monde à sa recherche. Au cours d'une attaque, au cœur de la station Alpha, nos deux comparses sont séparés et vont devoir parcourir une bonne partie de la station pour se retrouver et faire face encore à un nouveau danger. Cette balade, entre guillemets, nous donnera l'occasion de découvrir les nombreuses zones de la station, témoignant de la richesse et de la diversité des espèces la peuplant et par extension l'univers. Le film étant récent, je ne vais pas aller plus loin dans l'intrigue. Il est visuellement riche et foisonnant. On y retrouve beaucoup d'éléments de la BD. Le hic, c'est que c'est à peu près tout. Une fois de plus, la même critique va revenir. La forme, aussi belle soit-elle, ne parvient pas à masquer le manque de fond. On pourrait dire, comme pour le cinquième élément. Pas tout à fait. Dans le cinquième élément, il y avait un ton plus léger, plus taquin. Il y avait un humour piquant. Là, dans Valérian, c'est plus triste, on se prend trop au sérieux. La sauce prend moins, c'est comme une redite, mais l'effet de surprise en moins. Dans le cinquième élément, on découvre un univers entièrement sorti de la tête de Besson. Dans Valérian, pour ceux qui connaissent la BD en tout cas, on va logiquement comparer le film et la bande dessinée. On a l'impression d'un cadre plus contraint pour rester dans les clous de la bande dessinée, ce qui est normal, mais qui empêche d'avoir ce petit grain de sel qui a fait la magie du cinquième élément. En France, le film fait 4 millions d'entrées, ce qui est honorable, mais au niveau international, le succès n'est pas au rendez-vous, et le film est déficitaire. La rentabilité d'un film n'est jamais assurée. La production d'un film, c'est un sport à risque. Mais dans le cas de Valérian, les sommes en jeu sont colossales, 197 millions d'euros. Ce qui va fatalement entraîner la faillite d'EuropaCorp, la société de production de Luc Besson. Cette période va être agitée pour le réalisateur sur un autre terrain. Il va être accusé de harcèlement, d'attouchement et même de viol par 8 femmes. Il sera placé sous le statut de témoin assisté en janvier dernier. Ces événements sont en partie reliés à sa carrière de producteur-réalisateur. Je ne voulais pas faire un portrait à la gloire de Luc Besson et il me semblait nécessaire d'évoquer ses affaires. Souvent considéré comme un éternel adolescent, Luc Besson a marqué le cinéma français et international. En mettant l'accent sur une production française, il a apporté une vision différente des super productions hollywoodiennes par trop formatées, avec plus ou moins de réussite. Mais on ne pourra pas lui enlever le fait d'avoir essayé. Qui plus est dans un domaine marginal dans le cinéma français. Critiqué à tort ou à raison pour la superficialité de ses œuvres, il aura toujours contre lui les critiques. Il lui faudra plus pour le faire renoncer. Luc Besson a rêvé de créer en France une cité du cinéma capable de rivaliser avec les studios européens, voire mondiaux. Mais tel Icare, il va vite retomber, rattrapé par des réalités bien trop prosaïques. C'est un peu l'image qu'il donne, celle d'un enfant qui cherche surtout à s'amuser, et au diable si les adultes l'en empêchent. Avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que le Finistère, c'est le week-end prochain. Au programme, la présence de 17 auteurs qui se feront une joie d'échanger avec les visiteurs et de dédicacer leur œuvre. Il y aura également une expo sur la SF, une bibliothèque de l'imaginaire avec l'association Les Portes Logiques, des jeux de société et de rôle avec l'association À nous de jouer, et pas moins de 5 tables rondes. Tout ça se passera à partir de 14h samedi et dimanche de 10h à 18h, au Centre des Abeilles, 4 rue du Sergent Le Flao à Quimper. L'entrée est gratuite et le pass obligatoire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ».